France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véret.
Le Mexique, la musique et le monde, 28e chapitre, Josephine Baker et le Mexique à la fin des années 40. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Ce chapitre débute immédiatement en chanson, car au Mexique, l'année 1947 s'achève sur un air qui va à nouveau faire immédiatement le tour du monde. Il s'agit de la fameuse Malagueña Salerosa, la belle de Malaga, que les ténors mettront illico à leur répertoire. Or son titre est trompeur, ce n'est pas une musique andalouse. La Malagueña venue d'Espagne à l'époque coloniale s'est immédiatement métissée. Les auteurs ici se sont inspirés d'un huapango traditionnel de la région de la Huasteca dans le golfe du Mexique. Cette Malagueña Salerosa sera avant tout l'apanage des grands trios mexicains si populaires dans le pays jusqu'au début des années 60. Notamment le grand rival de Los Panchos, qui a été fondé en 1947 sous le nom de Los Tres Ases, les Trois As.
Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear.
Falsete, compañero.
Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa.
Y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Y decirte, niña hermosa,
que
en cette fin de l'année 1947, il y a peu de créations musicales dans les concerts de Mexico. Carlos Chavez, par exemple, compose assez peu. Il vient d'être nommé directeur de l'Institut des Beaux-Arts et il a fondé l'Orchestre Symphonique National du Mexique. D'autre part, il songe à publier une revue musicale et il projette de créer l'Académie Nationale de Danse et la Compagnie Nationale d'Opéra de Bellas Artes. Sa seule œuvre cette année-là, c'est son concerto pour violon, une commande d'un homme d'affaires new-yorkais pour son épouse violoniste qui sera créée à Mexico en 1952. Chavez a sauté sur l'occasion, car il aimait le violon par-dessus tout. Une œuvre sévère, à la fois lyrique et grave, une sorte de long traîne dont les mouvements s'enchaînent sans interruption. C'est ici le deuxième largo que nous écoutons, avec son ostinato de cordes et le corps lumineux répondant au violon à la toute fin. Un extrait du concerto pour violon de Carlos Chavez, interprété par Pablo Roberto Dimeque. C'est son frère Enrique Arturo qui était à la tête de l'Orchestre symphonique national du Mexique. Du côté de la danse, à la fin de l'année 1947, après Alicia Alonso et son ballet de Cuba qui a ravi les ballettomanes, c'est la danseuse et chanteuse américano-française Josephine Baker qui fait sensation au Teatro Lirico. Elle vient d'épouser au mois de juin Joe Bouillon, son chef d'orchestre favori. En France, les temps sont difficiles. On ne peut guère envisager des revues luxueuses comme celles d'avant-guerre. Joe Bouillon songe alors à réunir une troupe d'artistes pour une revue qui tournerait en Amérique latine. Il contacte le chanteur et chef d'orchestre argentin Hugo Del Carril, qui parvient à leur organiser une série de spectacles à Buenos Aires. Leur revue Paris chante obtient un triomphe inouï au Grand Théâtre Politeama dans de somptueux costumes créés notamment par Balenciaga. À Mexico, c'est le même triomphe. Et c'est sans doute à cette occasion que Josephine Baker a rencontré Agustín Lara, avec qui elle a lié une belle amitié. À son retour en France, elle enregistrera d'ailleurs le Chotis espagnol qu'Agustín lui a offert et que son parolier français a transformé en un hommage à Paris.
Ne me demandez pas si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander aux marins qui voyagent s'ils peuvent vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours c'est lui le favori. Mais oui, pardi, ce que j'en dis on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la parisienne, qu'importe qu'elle vienne du nord ou bien du midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris.
Paris, Paris, Paris.
Madame, c'est votre robe si jolie.
Paris, Paris, Paris.
C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, pardi. C'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre boucle blonde qu'on sait le mieux du monde coiffée avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre beau sourire. C'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France. Tout cela, oui, c'est Paris.
Josephine Baker interprétait en français la danse espagnole du Chotis, composée par Agustín Lara à Mexico. En 1947, le compositeur Manuel Ponce est sans arrêt sollicité par les concerts qui se succèdent sans relâche. Il a 65 ans et sa santé n'est plus au beau fixe. Mais il est encouragé par le succès remporté par ses œuvres, notamment lors des concerts de l'Orchestre symphonique d'Autriche, à Vienne en particulier, sous la direction du Mexicain José Limontour. Ponce est en train de terminer son deuxième concerto pour piano et écrit aussi des variations pour guitare sur un thème d'Antonio Cabezón à l'attention d'Andrés Segovia. Mais au fil des mois, il s'épuise et il décède le 24 avril 1948. Tout le pays est en deuil. Peu auparavant, Carlos Chávez avait consacré un concert entier à ses œuvres et Segovia était venu spécialement de Philadelphie pour jouer son concerto du Sud. Ces soirs-là, Chávez avait dirigé la création de sa dernière œuvre orchestrale, de courts instantanés mexicains comme des clichés musicaux pris au hasard de ses promenades avec, au détour d'une rue, ce thème populaire qu'il affectionnait. Enrique Batis à la tête du Royal Philharmonic Orchestra dans ces deux instantanés mexicains de Manuel Ponce. En 1948, l'Espagne est brillamment représentée au Mexique par la compagnie de zarzuelas de Pepita Embil et de Plácido Domingo Père, qui jouent devant des salles pleines à travers le pays. De plus, ils ont fait venir leurs enfants, Marie José et Plácido, qui sont arrivés en décembre. À Hollywood, l'Espagne et le Mexique sont aussi sur les écrans, quand sort le film de Charles Vidor, Les Amours de Carmen, vaguement inspiré par Mérimée. La belle Rita Hayworth est éblouissante, et surtout d'une vérité qui frappe tout le monde. La scène de sa danse andalouse, par exemple, est inoubliable. Rita Hayworth s'appelait en réalité Margarita Carmen Cancino. Son père était un danseur flamenco né à Séville et sa mère une Irlandaise à qui elle a emprunté son nom d'artiste par la suite. À l'âge de 12 ans, elle dansait déjà avec son père avec qui la relation était très conflictuelle. Mais elle n'a jamais oublié les tournées avec lui sur les côtes de Californie, en particulier à San Diego et surtout à Tijuana, au Mexique, où les cabarets attiraient un public international très nombreux. Elle a toujours revendiqué ses origines hispaniques et s'est vite identifiée aux Mexicains de Tijuana. D'ailleurs, Hollywood n'est jamais parvenu à l'américaniser totalement, y compris physiquement, et Dieu sait s'ils ont essayé. Rien d'étonnant donc à ce qu'elle ait incarné plus d'une fois des personnages hispaniques, et dans cette Carmen hollywoodienne de 1948, c'est l'authentique Rita qui joue un rôle qui lui va droit au cœur. Alors qu'elle est doublée pour le chant, sur ses lèvres, son espagnol est irréprochable, ce qui est d'autant plus troublant. Elle danse un ancien tango andalou, dans lequel une vieille gitane décrit en riant l'héritage ridicule qu'elle laisse en mourant, comme un défi qu'elle lance à la vie. Et Rita retrouve soudain la Margarita Carmen qui dansait enfant au Mexique.
Hermanito de mi corazón, que ya tú sabrás que me estoy muriendo. Y te pido y te encomiendo que llame a un escribano, también a mi primo hermano. Quisiera ser testamento con eso payo con fundamento. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted, señor escribano. La la lu, 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 la la lu. Apúntame un teno cortina que poca ojera cabe una vecina. Apúntame usted, señor escribano. Apúntame un teno copete que no tiene llave, cañón y baqueta. Apúntame usted, señor escribano. Apúntame usted, señor escribano. La la lu, la la lu. La la lu, 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 la la lu. Apúnteme usted en oliva que no se sembrá ni se sembrará. Apúnteme usted, señor escribano. Cuadro pío que ya ni yo sabe el santo que ha sido. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted, señor escribano. Tu vagas de oro, tu vagas de plata, matones podados, tu flores de cero, tu copa de nido, tu copa de vino, un nombre gitano que mucho me quiera. La luz, 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 la luz.
On est encore dans une ambiance très hispanique, avec la sonate pour violoncelle et piano que Blas Galindo compose en 1948, et c'est l'une de ses plus belles œuvres de musique de chambre.
Thank you.
Ignacio Mariscal, violoncelle, Carlos Alberto Pesero au piano, dans le premier mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de Blas Galindo. En 1949, un groupe de musiciens espagnols va connaître une aventure à la fois drôle et émouvante entre Cuba et le Mexique. C'est l'histoire très touchante de l'orchestre populaire des Churumbeles d'España, les gamins gitans d'Espagne, fondé par le violoniste José Fernández Ruiz. Dans les années 30, il avait joué dans les orchestres de tango pendant 8 ans à Paris avant de regagner son pays. Sa fille, María Estela Fernández, rencontrée lors d'un dîner à Mexico, nous raconte.
Mi padre, espagnol, fue el violinista principal de la orquesta Canaro.
Mon père espagnol a été le premier violon de l'orchestre de Francisco Canaro lors de l'apogée du tango, non seulement à Paris où il jouait à l'Olympia, mais dans toute l'Europe. Il rentre en Espagne après 8 ans à Paris et il est incarcéré par Franco dans un de ces camps de concentration qui ont préludé à ceux de Hitler.
Quand il sort, ya después de eso, empezaba a ver un poquito más el momento de jazz.
Quand il est libéré, c'est l'époque du jazz et mon père devient le violon soliste du premier orchestre de jazz espagnol. Mais la haine et l'horreur se sont accumulées durant les 10 ans qu'il a passé dans cette Espagne de la post-guerre civile. Ma famille était républicaine et mon père aussi, évidemment. Il a alors pensé que c'était le moment de s'en aller. Et justement, on lui propose un contrat d'un mois à Cuba. Il contacte des amis musiciens qui en ont assez eux aussi. Ils se réunissent à la Puerta del Sol et se disent « on s'en va » et tout de suite. Ils sont venus dans un cargo et dans ce bateau, durant la 20aine de jours de traversée, ils ont formé un orchestre qu'ils ont appelé Los Churumbeles de España. Thank you. 1949, Los Churumbeles de España sont engagés par le prestigieux cabaret Montmartre de la Havane. Leur succès est énorme. Ils interprétaient ici à la radio CMQ de Cuba, un de leurs plus grands succès, l'intermède orchestral du deuxième acte de la zarzuela, la leyenda del beso, la légende du baiser de Reveriano Sotuyo. María Estela Fernández.
Pero bueno, el caso es que venían por un mes y se quedaron más de dos años. Fueron un éxito.
Ils venaient pour un mois et en réalité, ils sont restés deux ans. Et cela a été un succès fracassant. Puis on les a invités au Mexique. Ils ont joué dans le Grand Hôtel du Prado, au Théâtre Esperanza Iris. Et du Mexique, ils ont été invités dans toute l'Amérique latine, aux États-Unis et au Canada. Ici, mon père et ses musiciens ont joué de la musique espagnole et l'orchestre a duré 17 ans.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
También los mexicanos tienen sus pasodobles, castizos y gitanos como los españoles. Guitarras y claveles, mantillas y peinetas y unas doñas mujeres.
Y de doñas mujeres
que defienden sus quereres lo mismito, que las nuestras.
¡Olé! ¡Olé!
En los ruedos sus toreros.
En el ruedo.
También al matar murieron, y aunque parezca mentira, quedan algunos con vida que asombro del mundo fueron. Y al tener sus melodías, giros tan bellos y nobles, ¿cómo faltarles podría? Su majestad el paso doble. Mexicano, del español es hermano, y qué gusto da escucharlos cuando juntos le dan gallo a la inocente sandunga prometida del guapango. Paso doble mexicano. Cuando alegras el ruedo se conmueve hasta el cielo y te da su bendición. Paso doble mexicano,
paso doble mexicano,
moro, azteca y español. Paso doble mexicano. El español es hermano, y qué gusto da escucharlo cuando juntos le dan gallo a la inocente sandunga prometida del guapango. Paso doble mexicano. Cuando alegras el ruedo se conmueve hasta el cielo y te da su bendición. Paso doble mexicano,
paso doble mexicano,
moro, azteca y español,
moro, azteca y español.
Un bel hommage au Mexique de Churumbeles de España que ce paso doble mexicano. Un ensemble si célèbre en Amérique latine et bien oublié en Espagne. Les Espagnols l'ont vraiment connu quand El País a publié un article sur José Fernández Ruiz lors de son décès en décembre 2003. En 1948 commence au Mexique ce qu'on a appelé l'âge d'or de l'opéra. Cette année-là, Carlos Chávez a commandé trois œuvres d'une heure à Hernández Moncada, Luis Sandy et José Pablo Moncayo, qui sont créées en octobre au Palais des Beaux-Arts. L'œuvre de Moncayo, La Mulata de Córdoba, La Mulatresse de Córdoba, sera reprise plusieurs fois. Moncayo a travaillé en collaboration avec le peintre et décorateur Agustín Lasso et l'écrivain Xavier Villaurrutia, qui ont tous deux concocté un livret qui s'inspire d'une légende mexicaine du XVIe siècle. L'action se déroule à l'époque coloniale dans ce qui était alors la Nouvelle-Espagne, sur la place de la petite ville de Córdoba, près du port de Veracruz. Une belle mulâtresse appelée Soledad, solitude en français, est courtisée par les hommes de la petite ville qui tentent de percer le mystère qui l'entoure. En effet, elle ne vieillit pas et elle refuse de révéler son origine. Seul le jeune Anselmo a sa confiance, car selon elle, il ressemble à son père. Et il est jalousé par son meilleur ami. Tous deux se battent et Anselmo est mortellement blessé. Soledad, harcelée par la population, se voit bientôt accusée de sorcellerie. Elle trouve refuge dans le palais du Saint-Office, mais le grand inquisiteur lui demande de dire qui est son père sous peine d'être exécuté. Soudain, parmi les moines présents, surgit Anselmo, ou son fantôme. Il la presse non pas de dire, mais d'écrire au tableau noir qui est son père. Elle dessine alors une superbe embarcation. Elle prend Anselmo par la main et tous les deux disparaissent sur le vaisseau qui les emporte. C'est ici la scène sur la place avec la foule qui entoure Soledad que nous écoutons.
Thank you.
Le deuxième tableau de la Mulata de Córdoba de José Pablo Moncayo. Juan Carlos Lomónaco dirigeait l'orchestre symphonique Carlos Chávez et le chœur de soliste de l'Institut National des Beaux-Arts. La Mulata était interprétée par la mezzo-soprano Gabriela Thierry. En 1948, c'est une autre mezzo-soprano, cette fois de musique populaire, qui vient de la Havane chanter au Mexique pour la première fois. Les Mexicains l'adopteront aussitôt, comme l'une des meilleures chanteuses de boléro venues de Cuba. Il s'agit d'Olga Guillot, qui a alors 26 ans et va devenir bientôt une star en Espagne et en Amérique latine. Elle vient de débuter dans un grand cabaret de la capitale cubaine avant de se produire sur la scène d'un grand théâtre mexicain et d'être invitée à la célèbre radio XW. En plus de son répertoire cubain habituel, elle interprète des boléros mexicains, notamment ceux de la compositrice Consuelo Velázquez, comme Franquesa, la franchise. Tu peux trouver loin de moi quelqu'un qui te comprendra. Tu m'as demandé de te dire toujours la vérité. Sache donc que ce n'est pas moi qui peux te rendre heureux.
Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro. Yo sé que voy a herirte por decirte lo que pienso. Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro. Debemos separarnos porque amor ya no te tengo. Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda. Es preferible así, el tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones. Pero tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda.
La grande chanteuse cubaine Olga Guillot. En 1948, la saison lyrique internationale au Palais des Beaux-Arts accueille la jeune soprano Astrid Varnay, qui arrive de New York, où elle s'est fait remarquer au Metropolitan Opera dans les grands rôles wagnériens. Curieusement, à Mexico, on ne lui confie que des opéras italiens où elle est manifestement moins à l'aise. Cette saison-là, ce sont aussi les débuts au Mexique du ténor Giuseppe Di Stefano, qui est acclamé par le public. Il a lié amitié avec la soprano mexicaine Irma González et tous deux font un triomphe dans Werther de Jules Massenet. On les écoute ici dans Manon. C'est sûrement un enregistrement pirate pris sur le vif donc au Palais des Beaux-Arts en juillet 1948 et récemment publié au Mexique. Le duo de Saint-Sulpice de Manon de Jules Massenet, Irma González soprano, Giuseppe Di Stefano ténor, Renato Cellini à la tête de l'orchestre Union Filarmonica de México. Et voici que lors du séjour de la chanteuse Olga Guillot, Cuba s'implante de plus en plus au Mexique. L'orchestre populaire Riverside qui l'accompagne régulièrement fait des merveilles dans les cabarets. Benny Moré est quasiment devenu mexicain. Il ne manque plus que la pétulante Ninon Sevilla, actrice, chanteuse et danseuse virtuose des théâtres et cabarets de la Havane. Pour la rumba, elle le sait, elle n'a guère de rival. Ninon Sevilla est arrivée au Mexique en 1947, engagée dans une revue du Teatro Lírico. Elle accompagne ensuite la compagnie de Libertad Lamarque à Guadalajara avant de tourner son premier film, Carita de Cielo. Gueule d'ange, dans lequel elle chante avec Benny Moré tout en dansant une de ces rumbas explosives dont elle a le secret. Elle donne ainsi le coup d'envoi à ce qu'on a appelé les films de rumberas, à la sensualité sulfureuse qui se déroule en général dans des cabarets et où les femmes n'échappent pas hélas aux hommes prédateurs.
La tumba me llama.
le duo de Ninon Sevilla et Benny Moré. Entre-temps, une nouvelle danse est en train de naître à Cuba. Tout a commencé à la fin des années 30. Le danson n'évolue guère à l'époque et les danseurs se sentent un peu à l'étroit dans le danson traditionnel, figé dans le même rituel. Le contrebassiste Israel López, dit Cachao, a alors l'idée de le rythmer davantage non seulement à la basse, mais aussi avec un ensemble de percussions plus fournies. Son frère, Orestes, et lui, jouent à l'époque dans l'orchestre du flûtiste Arcanio. C'est pour lui que les deux frères composent en 1939 un nouveau danson qu'ils intitulent le danson Mambo. Mambo étant un mot issu du vocabulaire afro-cubain qui claque comme une interjection. D'ailleurs, Arcanio aime beaucoup cette musique et il stimule ses musiciens en leur criant justement le mot Mambo. Arcanio y sus maravillas dans le danson Mambo de Israel et Orestes López. Mais il faudra attendre l'arrivée au Mexique d'un autre Cubain, le pianiste et génial orchestrateur Damaso Pérez Prado, pour que le Mambo prenne vraiment forme. Il avait commencé à Cuba à s'inspirer des frères López en imaginant même des orchestrations beaucoup plus audacieuses. Et le Mexique dans tout ceci. Le journaliste Ivan Restrepo nous explique. Le mambo a complètement changé la forme d'expression musicale, pas seulement au Mexique, mais dans toute l'Amérique latine, sans parler de son influence aux États-Unis et en Europe. Je dirais que le mambo a été conçu à Cuba, mais qu'il est né au Mexique. Et il est né au Mexique parce que Pérez Prado n'a pas réussi à faire à Cuba les arrangements qu'il a pu réaliser à la RCA Victor à Mexico. Une firme de disques qui dirigeait l'Association des auteurs et compositeurs cubains avait interdit les arrangements de Pérez Prado qui n'ont pas pu être réalisés à Cuba.
Et afortunadamente,
Heureusement, l'actrice Ninon Sevilla et Kiko Mendives, qui a été un grand danseur, un chanteur et un compositeur, l'ont convaincu de partir au Mexique et il est arrivé sans billet de retour.
Sin boleto de regreso.
C'est avec un des premiers mambos de Pérez Prado qu'on se quitte aujourd'hui et on se donne rendez-vous bien sûr dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission réalisée par Béatrice Trichet, disponible en podcast. Attachée de production, Nelly Portal.
À réécouter sur francemusique.fr.